RTL.
Vos plus belles années.
Vos plus belles années. Patrick Sébastien,
Rémi Castillo
sur RTL.
Bienvenue à vous, bonjour à tous et bonjour à Patrick et à Marie-Paul Bell.
Et à ma vieille copine, Marie-Paul.
Vous vous connaissez depuis longtemps?
Oh, on se connaît depuis un paquet de temps. Oui.
Et puis, on a quelques dossiers, quelques photos.
On a fait Bobino ensemble.
On a tourné avec Serge Lama ensemble.
Voilà. Quelle année? Dans les années 70.
Est-ce que c'est ton vrai nom?
Oui, c'est mon vrai nom.
De s'appeler Belle. Il y en a beaucoup des Belles.
Dans le Dauphiné, oui, je pense. Mon père était né en Ardèche. Tu connais l'origine du nom, non? Pas du tout. Plutôt du côté de ma mère, du côté corse, j'ai un peu recherché. Mais...
Ah, maman était corse?
Oui.
Tu y vas souvent?
Moins maintenant, mais j'y vais encore cet été-là. Je m'arrange pour y aller tous les ans.
Marie-Paul Belle, alors, l'enfance, ils faisaient quoi, papa et maman?
Mon père était médecin. Ma mère avait fait ses études de médecine et puis juste au moment où elle allait être médecin, elle a rencontré mon père et elle a arrêté.
Femme au foyer?
Voilà, femme au foyer, s'occupant
avec des petits frères, des petites sœurs, non?
Moi, je suis l'aînée. J'ai un frère qui me suit de 18 mois. On était comme des jumeaux. Et puis, il y a un petit post-scriptum, 15 ans après.
C'était une enfance à la campagne ou en ville?
Au début, à la campagne, à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise.
C'est campagne, ça?
C'est une petite ville. Et mon père était médecin de médecine générale, donc il faisait tout.
Il se baladait.
Donc,
ces gens qu'on pouvait déranger à 2h du matin,
voilà,
à 3h du matin.
Pour un accouchement, il faisait tout ça. Et donc, il ne voyait pas grandir ses
enfants. Tu l'as suivi de temps en temps?
Non, parce que j'étais petite, mais j'ai subi son absence. J'ai même fait une chanson après qui n'est pas encore sortie et qui commençait comme ça. Il écoutait le cœur des gens et il y avait mon piano dedans. Parce que quand il auscultait les gens, je jouais du piano dans la chambre à côté et il sortait avec les écouteurs et il disait « Je n'entends rien, j'entends que ton piano. »
Ce piano, tout de suite.
Dès l'âge de 3 ans, c'est maman qui m'a appris à jouer du piano parce qu'elle avait beaucoup étudié le piano et elle avait failli choisir de faire une carrière.
Mais elle avait failli être médecin, elle avait failli être
pianiste. Elle avait failli tout, la pauvre.
Est-ce que ça t'a suivi, ces faillis?
Un peu, et ça m'a aidée finalement, parce que c'est elle qui m'a fait aimer la musique. Elle voulait que le piano soit toujours un plaisir, la musique un plaisir. Et donc elle avait donné la consigne à mon prof de piano de jamais me gronder si je ne travaillais pas. Ce que j'ai fait, je n'ai jamais travaillé, parce que j'avais la chance d'être douée, donc je faisais tout d'oreille. Donc encore maintenant, j'ai un peu de lacunes. Je n'écris pas ma musique, je travaille toujours d'oreille.
Tu n'as pas rêvé d'une carrière de concertiste?
Quand j'étais petite, à 14 ans, oui, je me faisais des sketchs. J'arrivais au piano.
Avec la grande robe.
Je faisais comme si j'avais une queue de pie, où je m'asseyais comme ça. Et je faisais des chansons très jeunes. Ouais,
et voilà. Les goûts de la variété étaient venus dans l'enfance, dans l'adolescence?
L'enfance, j'ai commencé à faire des chansons, j'avais 9 ans, avec un copain d'enfance. En regardant ma main vieillie et toutes ses veines qui se tordent.
À 9 ans, t'écris ça?
À 12 ans, j'écrivais ça.
Et pourtant, t'es une fille gaie.
Oui.
On va arriver en 1976, tout de suite. C'est la sortie de La Parisienne. On va parler de ta carrière, on va parler de tes belles années, mais on va écouter ce qui passait. Tiens, ça, c'est un copain, t'as chanté avec lui. Ce qui passait en 76.
En ce temps-là, pas besoin de pédale wah wah. C'était pas la bossa.
Ah, ouais. Il y avait eux aussi là.
On a tourné ensemble.
Ouais, je sais.
Bonnie M.
Et puis évidemment.
Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me
mais
gêne.
Ça faisait tâche avec le reste.
Ah non, pas du tout. Comment tu y es arrivée? T'as fait les cabarets avant?
Oui, j'ai fait l'Écluse, l'échelle de Jacob, tout ça. Ouais. Parce que quand je suis arrivée à Paris, donc en 69, à la mort de ma mère, j'ai fait mes études. Et puis quand j'ai eu ma licence de psycho, j'ai dit que je voulais aller continuer à Paris. Mais en fait, c'était pour faire du cabaret. Parce que j'avais gagné un concours télévisé à Télé Monte-Carlo, qui s'appelait Chapeau, qui était un genre de Starac de l'époque. Et bon, il n'y avait pas Internet ni rien du tout. Mais quand on chantait mal, les gens étaient reliés à la télé dans des bars avec des téléphones. Et si on avait 3 noms, il y avait une hôtesse qui venait, qui vous mettait un chapeau sur la tête avec un roulement de batterie.
C'était ce qui remplaçait le fameux crochet du radio-crochet. Parce qu'avant, le radio-crochet s'appelait crochet parce que les mecs, il y avait un crochet. Et puis
qui
on...
le Qui les soulevait en l'air.
T'en as appris des choses aujourd'hui.
Ah oui, j'ai bien fait de venir.
Et dis-moi, en 76, t'aurais déjà des documents de la saison de Marie-Paul Bell sur RTL.
Parce que Marie-Paul, effectivement, était déjà sur RTL.
33 ans.
Il faut savoir quand même
34.
Que la Parisienne était devenue disque d'or en 1976. Vous étiez invité par Philippe Bouvard et vous allez évoquer, justement, vous en parliez à l'instant, vos jeunes années et notamment votre éveil musical. Car dans l'extrait que nous avons choisi, vous allez nous parler non pas du piano, mais de votre première guitare. Et vous allez aussi nous dire que votre premier désir, lorsqu'on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, c'était pas forcément de devenir chanteuse, c'était de devenir comédienne. Marie-Paul Bell, sur RTL en 76.
Je rêvais, non pas que je serais chanteuse, mais que je serais comédienne. Je voulais, en rêve, faire du cinéma. Et je commençais déjà à écrire des chansons. Et j'avais déjà un public parce que 14 ans, c'est l'âge où j'ai acheté ma première guitare, une guitare classique. Et à ce moment-là, j'avais économisé à tous les anniversaires, justement, tous les Noëls, mon argent de poche. Et je me souviens, elle coûtait 123 francs. J'ai appris la guitare toute seule, comme ça, à partir de 14 ans.
J'ai appris la guitare toute seule. T'as tout appris toute seule, le piano, la guitare tout...
Le piano, non, j'ai eu un prof particulier, mais j'ai jamais fait le conservatoire ni des choses comme ça. Donc, ça m'avait donné certains complexes.
C'est quoi qui t'a poussé? C'est la liberté, le besoin de liberté.
Ah oui, puis je me suis dit, si je chante pas, si j'essaye pas de chanter, je vais regretter toute ma vie.
Eh ben oui. Voilà. On va écouter Monique Lemarcy.
Oui, parce que je crois que Monique, effectivement, a joué un grand rôle pour vous dans votre carrière. Vous étiez d'ailleurs une artiste RTL.
Comme dans la carrière de plein de gens.
Oui, alors on peut citer Mike Brown, Joe Dassin, Laurent Voulzy, Marc Lavoine. Alors, pour vous faire plaisir, Marie-Paul, notre camarade réalisateur Gilles Lanneux, qui est à mes côtés, est allé voir Monique Lemarcy.
Non. Si
elle va vous laisser un petit message. Elle va aussi nous parler de sa chanson préférée, parce que vous ne savez pas forcément quel est le titre qu'elle préfère de vous. Oui. Mais avant cela, elle va nous dire comment elle vous avait découverte, Monique Lemarcy, qui était la grande prêtresse des variétés dans les années 70. On l'écoute sur RTL.
Quand je l'ai vue sur scène, c'était à Bobino. Je me suis dit, cette fille, elle a un tempérament extraordinaire, elle a des textes drôles, étonnants. C'est pas possible qu'on passe à côté RTL. Donc je suis allée la voir après, nous avons fait connaissance, et puis j'ai découvert une fille spontanée, vive. Mais Marie-Paul, je voudrais te dire qu'il y a une chanson de toi qui m'a toujours fait craquer, même si elle n'a pas été un vrai tube, c'était La Petite Écriture Grise.
Oui.
Alors, la petite écriture grise, ça y est, tu as la chair de poule.
Oui, La Petite Écriture Grise, c'est une histoire vraie. On avait loué une maison avec Françoise Malé-Joris et Michel Grisolia, qui étaient mes auteurs à l'époque, on en écrivait tout ensemble, dans un petit village qui s'appelait Bulle, qui était dans l'Oise, pour retrouver mes racines. Et on voyait toujours une dame qui était très voûtée, qui faisait ses petites courses et tout ça, mais elle parlait à personne et on la voyait, on disait bonjour et tout ça, très gentil. Et puis un jour on l'a plus vue et donc elle était morte et on a retrouvé son journal et on a vu que cette femme, elle était pharmacienne et qu'elle avait vécu une passion extraordinaire et que c'était son jardin secret. Et donc Françoise a écrit, a imaginé ça.
Ce matin, nous sommes avec Marie-Paul Bell. On est dans une ambiance de confidence qui va très très bien au spectacle qu'elle va faire à l'Alhambra le lundi 18 octobre et le dimanche 17 octobre la veille. On en parle déjà parce que c'est important. Et c'est de Marie-Paul Bell à Barbara. La première partie, ça sera Marie-Paul et la deuxième partie, ça sera Barbara. Mais c'est cet univers-là. C'est vrai que Barbara aurait très bien pu chanter une chanson comme celle-là, comme La Petite Écriture Grise. Tu l'as connue, tu l'as croisée. Vous avez chanté ensemble, vous avez.
On a chanté ensemble pour une cause humanitaire, une chanson qui avait été écrite par Alice Donna. Et il n'y avait que des femmes.
Alice Donna ? C'est qui ça, Alice Donna ?
Il n'y avait que des femmes, 40 femmes, de Jane Birkin, Harry Kazara, et en passant par Barbara. Et c'était extraordinaire, parce qu'il y avait une ambiance. C'était un week-end pour que tout le monde soit libre. Et donc, les femmes amenaient leurs chiens, leurs paniers, tout ça. Et
surtout Birkin.
Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à elle. Et à un moment donné, donc, il fallait faire des chœurs à l'unisson. Donc, le chef de chœur disait, bon, alors, on y va, 3 à 4. Ah là là là. Et et Barbara faisait des variantes. Et alors, elle sortait du lot, en levant son bras, elle faisait des variantes. Et le chef de chœur lui avait dit « Mais Barbara, mais chantez comme tout le monde !» Et elle avait dit « Mais moi, je ne peux pas chanter comme tout le monde
!» Alors, on est en 1976, et dans notre émission, on joue à reconnaître des génériques TV, des extraits de films. Tu vas jouer avec nous. Moi, je ne connais pas les réponses. On y va.
On a fait facile, hein. Là, facile. En l'occurrence, oui, c'est une série familiale, toujours diffusée d'ailleurs. Ça, ça va partir. Pense aux prairies.
Oh non, t'as qu'à filer le titre aussi.
Non, mais c'était le générique. Il y avait une maison.
Le titre, ben on a compris, ça pense aux prairies, il y avait une maison. Mais ferme-la.
Il y avait Laura Ingalls, Charles Ingalls, de la famille Ingalls. C'était la petite maison dans la prairie.
C'est pas possible.
Mais si. Et ça démarre en 76.
La réponse.
Non, mais ce qui est formidable, c'est que c'est toujours rediffusé encore actuellement sur M6.
Ça m'intéresse pas, tu veux que je te dise. Je m'en fous de la famille. Le mec qui coupe du bois avec les gonzesses qui courent en jupe, là, ça.
C'était très mignon. C'est toujours mignon. D'ailleurs.
Mais toi, ça te touche.
Il y a plein de fans.
Tu sais qu'il y a plein de trucs sur Canal Plus qui passent le minuit, le samedi soir, qui sont aussi intéressant.
Je ne savais pas, mais je n'ai pas Canal+. Voilà.
Allez, je reste sur M6. Un petit extrait de film.
Oui, et on va assister à un petit caprice d'un enfant.
Je veux qu'on me fasse un paquet.
Oh, tu plaisantes, mon chéri.
C'est un film de 76, ça?
On ne va pas mettre ce monsieur dans...
Pourquoi?
Ah si,
c'est un film que tu adores.
Ouais.
Ça ne se fait pas.
C'est un film de Weber, je crois.
Oui, de Francis Weber.
Avec Michel Bouquet et Pierre Richard.
Entre autres. Et là, l'enfant, c'est
film magnifique.
Fabrice Gréco, qui faisait beaucoup de caprices. Et justement, il avait pris Pierre Richard pour un...
Pour un jouet. Tu te rappelles pas le jouet?
Ah oui, t'as raison.
Le jouet, c'était magnifique. Le jouet.
Ah oui, oui, oui.
Allez, juste après la pub, on offre un jouet à Marie-Paul Bell.
RTL. Vos plus belles années. Avec Marie-Paul Bell.
Voilà, avec Marie-Paul Bell ce matin, un petit rayon de soleil qui est rentré dans notre studio. On se retrouve en 1994 où tu fais ton retour sur scène avec un spectacle piano-voix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le spectacle piano-voix, c'est ta vie à l'extérieur. C'est quoi ta vie à l'extérieur? C'est quoi tes passions? C'est quoi ton refuge quand ça va pas? Explique-moi.
Mon refuge quand ça va pas, c'est la musique. Mais en fait, quand ça va vraiment pas, je n'arrive même pas à faire de musique. Donc mon piano reste silencieux pendant des mois et des mois. Et donc c'est de voir les amis et de dans un bon dîner avec un bon petit vin rouge. Oh, voilà.
C'est pour ça que t'étais copine avec Lamar, en fait.
Oui, c'est lui qui m'a initié.
Serge, tu l'as rencontré quand, Serge?
Serge, je l'ai rencontré pour une émission qui se faisait sur l'Écluse, et il était donc vedette de l'Écluse, et c'était une rétrospective, et moi, au moment où on faisait cette émission, je passais à l'Écluse, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré, et j'ai détesté d'ailleurs notre première rencontre, ça l'amuse, parce que tout de suite...
Le côté macho du bonhomme ?
Oui, alors là... Alors tout de suite, il me prenait par la taille, voulant que je me mette sur ses genoux et tout ça.
Ce qui est normal, c'est la main.
Ce pauvre type.
Heureusement que moi, je ne me conduirais pas comme ça.
Enfin, j'avais vraiment détesté. Puis après, Eddy Marouani, qui était son impresario, m'a demandé si je voulais bien partir en tournée avec eux. J'étais ravie parce que je passais d'une salle de 80 places à des arènes de Béziers de 12 300 personnes. 250 concerts par an, ils faisaient tournée d'été, tournée de printemps, tournée d'automne.
Et puis c'était sobre. Les fins de soirée étaient sobres.
Très. Moi, il m'appelait la chanteuse de matinée parce que j'avais sommeil. Je veux dire, comme il y avait beaucoup de signatures à la fin du spectacle.
T'avais sommeil à 2h du matin? C'est pas possible, ça n'existe pas en tournée.
Je dormais
ça.
Dans la soupe. Alors, elle me disait, toi, t'es faite pour chanter en matinée.
On va l'écouter, Serge, tiens.
Oui, et alors justement, comme la deuxième année choisie par Marie-Paul, c'est 1994, saviez-vous que dans les années 90, Serge avait tenté une nouvelle expérience en dehors de la scène et du chant?
Il en a tenté une expérience. Il avait tenté le téléfilm, si je me souviens bien, la série à la télé.
Mais il y avait aussi une autre expérience, là encore sur les planches, mais pas forcément pour chanter.
Pour jouer au théâtre, oui, la pièce de Guitry.
Alors, il y a eu une pièce,
La facture
effectivement,
Guitry aussi.
Avec Agnès Soral au Bouffe Parisien, et la pièce de Sacha Guitry, Toa, au théâtre Édouard VII, qu'il a ensuite enchaîné, là encore, avec une grande tournée dans toute la France. On va l'écouter, Serge Lama, parce qu'il va nous parler de cet exercice de style qui n'était pas forcément évident pour lui. C'est ce qu'il nous a
surtout
confié.
Avec ce qu'il avait connu, quoi.
Bien sûr.
Il a connu des palais congrès. Pour
lorsqu'il était donc l'invité du journal Inattendu que présentait à l'époque Jacques Legros, et puis il va tout d'abord nous parler quand même du point de vue du metteur en scène. Serge Lama, ça va parler à Marie-Paul, parce que on parlera aussi de votre expérience théâtrale un peu plus tard. Vous êtes dans vos plus belles années sur RTL.
le metteur en scène qui arrive, qui a son point de vue sur la pièce, et vous devez concilier tout ça. C'est votre rôle, vous, de vous intégrer au milieu de tout ça et d'essayer d'interpréter à la fois la pièce et ce que veut en faire le metteur en scène. Quand on a les intentions, le texte se retient et vient plus vite. Quand il faut en même temps jouer la situation, prendre une tasse de café, servir un verre de champagne, ça, c'est tout ça qui est très difficile à faire. Tous ces mouvements coordonnés, c'est comme jouer de la guitare et chanter en même temps pour ceux qui sont musiciens. Il faut arriver à coordonner tout ça, c'est très difficile.
Ouais, mais c'est normal, ça c'est normal, parce que Serge était son metteur en scène quand il faisait du musical. Et c'est vrai qu'il devait être un petit peu paumé là-dedans. On va écouter un autre monsieur qui est un homme heureux, je le répète encore une fois, chaque fois que je lui vois chanter, je suis un homme heureux avec une tête comme ça, je me dis c'est pas possible. C'est William Scheller.
Mais oui, parce que lui aussi, hein, les piano-voix, il connaît. Tu faisais allusion à ce titre, Un homme heureux, c'était dans le cadre de son album Scheller en solitaire. Et puis plus récemment, il est revenu encore à la formule piano-voix dans le cadre de son album Épure. Alors pour revenir à l'année 1994, on va le retrouver dans le cadre d'un Studio 22 que présentait à l'époque Nagui. Alors je ne sais pas si vous le savez, Marie-Paul et toi aussi Patrick, mais c'est grâce à Barbara, puisque Marie-Paul, son actualité à la rentrée, ce sera ce spectacle de Belle à Barbara. Oui. C'est grâce à Barbara que William Scheller est devenu chanteur. Ouais. Et il va tout d'abord, dans le document qui va suivre, nous parler de son premier déclic. Nagui et William Scheller, pour faire plaisir à Marie-Paul Bell, sur RTL.
Je crois que le premier déclic, ça a été une messe, en fait.
Oh là là, oui, une messe.
C'est vrai,
une messe.
Non ? T'as fait une messe pour qui ?
Bah pour des, j'avais des amis qui se mariaient, alors comme cadeau de mariage, j'ai pris tous les ronds que j'avais, j'ai fait un album avec, ça s'est vendu comme des cages à Lyon, évidemment, et puis j'avais plus un rond.
Et ça a été le déclic, la rencontre avec Barbara ?
Après ça, oui.
Mais elle, elle a entendu cette messe,
elle c'est ce qu'elle intègre. Oui, puis elle m'a demandé de lui écrire des orchestrations, et puis un jour, elle m'a dit « tu devrais chanter ». Je dis « ah bon ?» Et puis voilà, puis ça a commencé.
Et ça a été le déclic, d'accord. Voilà.
Piano voix, elle se marre, Marie-Paul.
Oui, parce que j'aime bien que
la phrasé, façon dont oui. il parle. Les cages à Lyon, ça se vend comme oui, des cages à Lyon.
Ça se vend comme des cages à Lyon, l'expression est jolie.
Des,
trucs,
des images incroyables. Oui.
On va écouter un extrait de film de 1994.
Oui, et il va être question de politique dans le cadre d'une émission de télévision, Patrick.
La politique, c'est une passion chez toi ?
Passion, ça veut dire que pour informer, il faut connaître. L'expérience fait loi dans notre métier.
C'est clavier, ça, non ?
Oui. Question de son prénom, 94, qui était journaliste.
Et ensuite, il a été royaliste. 2-3 mois après notre visite des châteaux de la Loire, on avait passé un petit voyage.
Là, c'est sa femme, Marianne Chazelle.
C'est Marianne Chazelle. Ouais. Épousée, là.
Non, là, chérie, tu me vas. Il a réfléchi.
C'est une blonde.
Je sais pas.
Une blonde.
La vengeance d'une blonde.
Bien, la vengeance d'une blonde. Joli. Il y avait également Thierry Lhermitte dans cette
histoire. Et le générique télé, c'est quoi ? Non, mais je.
Il est très très fort. Et c'est un générique chanté par une interprète qui avait spécialement réécrit un de ses grands succès dont on a parlé pour cette émission. Attention.
Ah.
Écoute, Patrick.
C'est dès le petit matin qu'on pense au bonheur.
C'est l'émission sur France 2, ça, non ?
Oui.
C'est la, le générique de Matin Bonheur,
oui.
Ou je sais pas quoi ?
Bien sûr.
C'est ça ?
Mais oui.
Attends, laisse, laisse.
Écoutez surtout le refrain. Et maintenant, le refrain, c'est génial. Écoute bien.
Une équipe au talent rare vous prépare avec l'invité du jour des chansons et des concours. Quand ça sonne, quand ça sonne, et on vous donne
et ce générique m'a éclaté parce que moi j'ai démarré dans cette émission. Tu te souviens pas, toi, Patrick ? Si, bah, j'étais chroniqueur. J'étais chroniqueur dans Matin Bonheur.
Dans cette émission.
Et on t'avait reçu d'ailleurs. Et je t'avais présenté, les objets de l'an 2000. Je t'avais présenté un téléphone portable et tu m'as dit jamais portable, jamais.
Et c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai refusé tout portable.
C'est vrai.
Tu es nostalgique, toi, Marie-Paul ?
Ça dépend pourquoi, parce que je suis très très intéressée par les nouvelles techniques, internet, pour la musique par exemple. Surtout moi qui n'écris pas la musique, je joue et puis la partition s'écrit toute seule, c'est formidable.
Ah bon ?
Oui. Tu fais la 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 dans ton truc. Et puis ça...
qu'est-ce que ça fait d'avoir des chansons qui collent à la peau comme celle-là ? Les gens dans la rue, c'est Madame Parisienne, c'est Madame Wolfgang, c'est...
C'est plus la Parisienne, c'est certain que la Parisienne c'est ma carte d'identité.
Mais alors fois, cette carte que... d'identité elle dérange parce que mais... j'en discutais avec plein de chanteurs. Jonas il veut plus chanter la boîte de jazz par exemple, tu vois.
Ça, non, moi, je la chante toujours, je peux pas l'enlever, j'ai essayé de l'enlever.
Ah non, c'est pas possible. Pas.
Mais les gens maintenant mes cheveux avec l'âge ont défrisé et donc ils me reconnaissent mais ils savent pas trop, ils ont peur de se tromper. Donc comme ils veulent pas me demander, ils sifflent la chanson où ils chantent la chanson. Ils font ta la 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 la. Et moi, ça me fait rire. Alors, si ça me fait rire, alors ils savent que c'est moi. Donc, c'est plutôt gentil, je trouve ça sympa.
Tu t'es protégé, ta vie privée, tu l'as protégée en permanence.
Ah oui, oui.
Mais alors, qu'est-ce qu'on écoute
là ? On va marquer une pause et juste après, ce sera le succès de l'année 94.
De privé tout à l'heure parce que
tu feras un cadeau privé ?
Oui.
Tu vas me donner la photo qu'on avait montrée ?
Non, c'est pas ça. C'est que pour la première fois dans l'album que je prépare justement et qui va sortir dans une maison de disques d'internet. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à donner à partir de 5
euros. Allez, sur internet. Qu'est-ce qu'on va, on va sur quoi ? Sur
Sur AK Musique.
AK Musique. Okay.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois que je parle d'un sujet personnel avec une chanson qui s'appelle Celle qui aime elle. Et les gens savent un peu quelle direction je prends dans ma
c'est
vie.
C'est pas honteux,
mais...
hein ?
Non, c'est pas honteux.
Au
c'est
contraire.
Pour ça.
Au contraire. C'est pour ça. Puis ça fait tellement de progrès dans la tête des gens par bonheur.
Tellement.
Le fait d'avoir une orientation, on va le dire, une orientation sexuelle, amoureuse d'abord avant d'être sexuelle,
bien sûr.
Amoureuse. Avoir une
même
orientation amoureuse est quelque chose de très très difficile à vivre. Allez, on y va.
Alors pour ce qui est de la chanson de Marie-Paul, on l'écoutera tout à l'heure en fin d'émission, mais dans l'immédiat et avant qu'il ne soit midi, ce sera Jimmy Cliff, succès de l'année 94, avec Can See Clearly Now sur RTL. A tout de suite.
Et maintenant, c'est notre petite question quiz après la chanson de Jimmy Cliff qui s'appelle
I Can See Clearly Now, succès de l'année 94.
Notre petite question quiz, oui. Il faut deviner à quel événement correspond le document qu'on va entendre.
Alors, est-ce que tu souhaites un indice, Patrick, ou on écoute directement ? Alors, on écoute. Je pense que tu vas facilement identifier la personnalité qui s'était exprimée sur RTL.
C'est très gay, c'est une musique assez joyeuse.
Bon,
et que, comme le texte aussi est très drôle, les répliques très sont fort. Tout à fait d'actualité. Un cocu, ça fait rire aussi aujourd'hui, sauf lui-même. Et en fait, je crois que tout le monde s'amuse, même musicalement, en fait.
Eh bien, on dira après les infos. Est-ce que c'est Marie-Paul qui parle d'un, ou d'un spectacle ou d'une chanson?
En tout cas, de quelque chose de très gai, on s'amusait
quelque chose
beaucoup.
De très gai, de très drôle.
Voilà. Donc, restez avec nous pour connaître la réponse. Ce sera
des
juste après
soirée
les
avec
infos.
Serge Lama, des trucs comme ça. Des...
Vous écoutez RTL, il est midi.
RTL.
Vos plus belles années.
Vos plus belles années. Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur RTL en ce dimanche 11 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde, Patrick. Mais aujourd'hui, on parle musique.
Exactement. Allez, l'équipe qui va gagner.
Champion du monde.
Voilà.
Alors, juste avant les infos de midi, vous avez certainement reconnu Marie-Paul, effectivement, qui nous parlait de quelque chose de très gai. Est-ce que tu as une idée, Patrick?
Une chanson.
C'est pas une chanson,
un
mais c'était oui, c'est un spectacle qui était musical. Est-ce que Marie-Paul s'en
Est-ce que tu te souviens
s'en
C'était en quelle année
C'était en 1988.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1988 dont
c'était,
tu parlais
Est-ce que c'est une pièce d'Eugène Labiche
Exactement.
Qui s'appelle
Si jamais je te pince.
Exactement. Voilà.
Que t'as joué
J'ai joué au Bouffe Parisien dans le théâtre de Jean-Claude Brialy.
Ouais.
Et la musique était écrite par Michel Frantz, qui était l'homme qui s'occupait de toute la musique à la Comédie Française. Et donc, c'était comme une comédie musicale.
Absolument, en fait. Une comédie en trois actes dans laquelle, effectivement, la musique tenait un rôle prépondérant. On va retrouver le journaliste Jean-Pierre Tison, qui va nous en dire plus sur RTL.
Marie-Paul Bell, la chanteuse fait ses débuts au théâtre, au Bouffe Parisien, dans une comédie d'Eugène Labiche, « Si jamais je te pince ». Un vaudeville qui devient une opérette, la biche en chanson, un pot-pourri d'air des pastiches d'Offenbach.
Un pot-pourri d'air des pastiches d'Offenbach.
Oui.
Voilà. Tu es d'abord musicienne.
Ah oui, je me sens musicienne.
Tu as chanté par hasard ou parce que tu voulais vraiment chanter?
Je voulais vraiment chanter parce que j'avais besoin d'être sur scène, de faire rire, d'être reconnue, de me sentir aimée, ce que beaucoup d'artistes
c'est des malades. Alors, on se retrouve en 1978. Alors, c'est le premier Olympia et ce premier Olympia, tu sors effectivement. Moi, avant de parler de ce premier Olympia, je voudrais qu'on écoute ce qui passait en 78 et puis après, tu me parleras encore un petit peu parce que cette ambiance-là, des cabarets, de l'écluse, de Chelles de Jacob, tout ça, ça s'était fait. Formidable. Il passait ça en 78.
Karine Redinger,
j'adore.
Votre lettre à fleurs.
J'adore.
Vous devez être endormi, rêveuse de choses qui sont loin de moi, peut-être. Alors c'est
ça,
pas
c'est
bien.
Un musicien.
Ah, oui. Oui. Et puis l'autre aussi derrière.
Ah oui,
ça.
De police.
Oh là là, ça aussi j'adore.
Et ouais, puis un jeune chanteur qui a fait pour pas grand chose.
Alexandrie. Ah bon, c'était en 78
ça 78
époque.
Ça m'a plu c'est déjà.
Ouais.
Oui, parce que tous ces chanteurs, tu les as croisés sur les plateaux de Guy Lux, sur les plateaux des Carpentiers. Tu en as fait pas mal des Carpentiers, toi.
Oui,
tu as dû faire tous les Carpentiers avec Serge.
Avec Serge, j'ai fait les miens.
Et elle était comment ce vide cabaret? Tu faisais comme moi j'ai fait, c'est-à-dire t'en faisais un le soir, après ouais. Tu faisais.
Deux, trois, on en faisait.
Au 4-5,
oui,
ouais,
bah.
Alors tu es passé où
et
à
j'étais
l'écluse,
la première
l'échelle.
À faire la pizza avant que ça soit
la pizza du
Marais. Mais c'est, je faisais la pizza.
Donc tu étais toute seule au piano
à Pigalle et c'était un jour striptease, un jour chanson.
T'allais pas se tromper de jour.
Est-ce que t'as des
mais
petites
les gens
anecdotes
se trompaient de jour
époque.
Et ils croyaient que j'allais me mettre à poil et ils criaient à poil la greluche très énervée.
Ça c'est drôle.
Ils criaient à poil la greluche. Ils n'en pouvaient plus. Et moi je chantais j'ai la mal à vague. Je faisais comme si je comprenais rien.
Mais ça t'a enrichi toutes ces années-là.
Ah, oui, oui.
Et puis c'était gai parce que ça s'arrêtait pas au cabaret, quoi. On vivait en dehors.
Ah oui.
Qu'est-ce qui te reste de cette époque, toi?
Un peu de nostalgie, mais je suis quand même contente d'en être sortie parce que j'ai rencontré des années après des personnes qui n'étaient jamais sorties de ce circuit et ça, c'est pathétique et ça m'a...
Alors ça, c'est important à dire à ceux qui nous écoutent, il ne suffit pas d'avoir du talent. Parce que moi, j'ai croisé dans ces endroits-là beaucoup de gens qui avaient du talent, qui avaient bien plus de talent que moi. Mais après, il y a tout ce qui se passe autour, il y a la manière de se conduire dans la vie, il y a les rencontres, il y a la chance...
Caractère aussi. Il n'y a personne qui a des mauvais caractères.
Le talent ne suffit pas. Il y a le travail.
Beaucoup de travail, oui. Les jeunes ont du mal à le croire. Ils pensent qu'on va arriver très vite, qu'on va gagner beaucoup d'argent et que c'est facile. Mais il faut bien le savoir que si on veut durer et si on fait une carrière, on a des hauts et des bas. On a des grands, grands moments de solitude. Et à ce moment-là, eh ben, il faut être un peu solide et avoir beaucoup d'amis.
Et même des grands,
et des vrais amis,
des grands personnages. Quand je n'arrête pas de dire au monde, mais vous savez, en 1980, Johnny faisait des tournées, une tournée d'été, je me souviens, il y avait 40 personnes dans la salle.
Et pourtant, mais Aznavour aussi, ouais, et Brassens aussi, et tous les grands noms.
Il y a eu des trous, et Barbara aussi. Et on va écouter Barbara.
Ah, oui, pour faire plaisir à Marie-Paul, et merci. En clin d'œil évidemment au spectacle. On rappelle, 17 et 18 octobre prochain à l'Alhambra. On a cherché, on a fouillé dans nos archives RTL. 1978, année de votre première Olympia, elle était sur RTL, interviewée par Philippe Calonni. Et dans l'extrait qu'on a choisi, elle va nous parler de scène et plus précisément du public. Vous allez pouvoir réagir tous les deux. Est-ce que cela représentait un vrai plaisir pour elle? La réponse de Barbara sur RTL.
Parce que ça vous fait plaisir quand on vous applaudit?
Oui et non. Oui, parce que, bien sûr, c'est bon. Et quelquefois non, parce que c'est comme un viol du silence, mais on ne peut pas empêcher les gens de vivre. C'est leur façon à eux de chanter ou de vivre, de s'exprimer, que d'applaudir. Et ce serait monstrueux que d'intégrer les applaudissements. Puis en fait, on en a besoin parce que c'est quand même, ça vous porte, c'est fantastique. Mais quelquefois, c'est comme un déchirement parce qu'on est absolument absent. Hein, et ça vous comme ça, ça vous déchire. Mais c'est merveilleux, bien sûr. Merveilleux.
Quelle voix sublime, même quand elle parle. Je trouve qu'elle a une voix sensuelle quand elle parle. Cette femme débordée. Quand j'avais été gamin, que j'avais 13 ans, je la détestais.
Je sais pas pourquoi.
Je détestais cette bonne femme. Et puis,
elle te faisait peur,
petit à petit, un jour, j'ai commencé à écouter des trucs. Elle m'a fasciné. Ah oui. Elle m'a fasciné. Mais vraiment fasciné. Et je l'ai trouvée d'une sensualité extraordinaire, en plus. Et un petit générique TV de 1978. Ça va pas nous rajeunir, ça. 1978, t'avais 14 ans.
Série française très connue.
C'était un petit gamin.
Et c'est une musique composée par quelqu'un qu'on a reçu récemment.
Cosma ?
Dans le Grand Studio, absolument. Dans le cadre d'une spéciale musique de film de Vladimir Cosma.
Alors c'est quoi ? C'est un générique TV, ça ?
Oui.
Cosma, il a fait une
série française. Mais bien sûr, elle en a fait beaucoup. Souviens-toi, on avait passé L'amour en héritage, notamment. Alors c'était une série dans laquelle on retrouvait Catherine Allégret, notamment Etienne Chico, Georges Belair.
C'est pas Taxi de nuit, là
Pas Taxi de nuit, mais pas loin.
Ouais, c'est un truc. Bah, c'était les taxis, ouais.
Ça avait été créé par Bernard Griden. Mais qui est
médecin
Bernard
de nuit.
Oui, c'est médecin de nuit. Et qui est Bernard Griden qui a écrit cette série? Bernard Kouchner.
Kouchner.
Voilà.
C'est pas vrai.
Si. Ah bah oui. Bah oui, il est partout. Hein.
Ah bon.
Ça avait démarré le 22 septembre 1978 sur Antenne 2 à l'époque.
Bien sûr. Un petit extrait de film.
Oui, et ça a été diffusé pendant 8 ans.
Quand on a les fiches devant,
on travaille. Mais on travaille beaucoup, Patrick.
Ouais,
c'est important. Hein.
Oui.
Un film culte.
Vous comptez rester un peu sur la
oui.
Côte ?
Non.
Ah,
c'est tellement facile.
Je n'aime pas rester trop longtemps éloigné de ma circonscription. Oh. Et puis,
avec Galabru à côté.
Oh, oui, c'est Galabru.
Puis, j'avoue que l'ambiance de ce pays, le laisser-aller, les légèreté des mœurs, tout ça, mais ça me soulève le cœur, quoi. À propos, ça ne vous gêne pas, cette boîte de nuit, là, en dessous de chez vous ?
Une boîte de nuit.
Oui, cette espèce de night club, là.
De night hein,
c'est
club.
La cage aux folles.
Ah oui, la cage aux folles. Oh, non.
Il faut deviner le titre.
Je crois que vous l'avez reconnu. Hein. Film d'Edouard Molinaro, évidemment. On écoutait Michel Serrault et Michel Galabru. Qui faisait la voix française, d'ailleurs, d'Hugo Tognazzi ? Quelqu'un qu'on a reçu, d'ailleurs, Patrick. De
la
son vrai nom.
La voix française d'Hugo Tognazzi.
De son vrai nom, oui, Pierre Cuc.
Pierre Mondi.
Exactement, qui les avait mis en scène. Michel Serrault,
oui, bien sûr.
Avec Jean Poiret.
Allez, un petit peu de pub, et puis on parlera peut-être un peu de la différence dans quelques instants, juste avant la chanson, mais on va parler, juste après la pub, d'un titre qui disait « Où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants ?»
Oui.
RTL, vos plus belles années, avec Marie-Paul Bell.
Et on aborde la quatrième année avec Marie-Paul Bell aujourd'hui dans vos plus belles années, l'année 1995, avec un titre qui dit « Où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants ?» Ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil.
Oui, des percepteurs.
Ah bon ?
Oui.
C'est méchant, un percepteur ?
Ben, je sais pas, mais c'est dans la chanson.
Quelles sont les méchancetés que tu as subies dans ta vie, toi, qui t'ont blessé vraiment ? Est-ce qu'il y a eu justement des méchancetés par rapport au sujet qu'on a abordé tout à l'heure et qui fera
oui,
la dernière chanson ?
Sur l'homosexualité,
est-ce qu'il y a eu vraiment...
Qui dansent, qui font des rondes avec des insultes dans les villages, des choses comme ça.
Ah bon ? Qu'est-ce qui doit progresser dans ce domaine-là, pour toi ?
ce qui doit changer, je pense, c'est qu'on arrête de penser que c'est une perversion, que ce n'est pas normal.
Tu sais qu'il y a plein de gens encore qui pensent que c'est une maladie.
Mais oui, c'est pour ça, c'est ça qui doit changer.
Toi, tu es paxé. On va écouter Françoise Verny.
Oui, parce que de temps à autre, effectivement, en recherchant effectivement des documents pour faire plaisir à nos invités, ben, on a la chance de découvrir des amitiés entre des personnalités, notamment grâce au journal Inattendu. Tu connais le principe, Patrick, un invité principal qui a la possibilité d'inviter d'autres personnalités. Et c'était le cas avec Françoise Verny, qui était la rédactrice en chef. Elle publiait à l'époque un livre qui avait pour titre « Mais si messieurs, les femmes ont une âme ». Et elle avait...
Ah bon ? C'est nouveau, ça.
Et elle avait invité...
Les femmes ont une âme ?
Oui, elle avait invité Marie-Paul à venir la rejoindre sur RTL. On va donc l'écouter nous parler de vous, parce qu'elle vous considérait comme sa petite sœur. Et puis vous pourrez entendre aussi votre réaction. Françoise Verny et Marie-Paul Bell sur RTL.
Comme je l'écris dans mon livre, Marie-Paul, c'est un peu ma petite sœur.
Ta petite sœur, oui.
Et je l'aime beaucoup. Je l'aime pas seulement pour ce qu'elle est, je l'aime aussi pour les chansons qu'elle chante, qu'elle compose avec Françoise Malégeorit. Et c'est vrai que je suis ravi d'avoir Marie-Paul.
Et moi, je suis ravie d'être là parce que Françoise, c'est aussi ma grande sœur. Et à chaque fois que j'ai eu des difficultés dans mon métier, des moments de doute très importants, quand j'ai failli arrêter de chanter, ça m'est arrivé de penser à ces choses-là. Et elle m'a toujours dirigée d'une façon sûre, solide. Et elle m'a toujours réconfortée et redonné l'énergie.
Tu as quand même un noyau d'amis fidèles.
Mais c'est, même si je ne les vois pas beaucoup, par exemple, là, ce que je dis sur Françoise Verny, c'est très vrai. J'étais découragée, souvent, je voulais arrêter de chanter. Et il y a une autre personne dans le métier qui est le magicien des Lumières, ouais, le dieu des Lumières.
C'était l'idole de mon fils.
Et Jacques Rouvérolis, à un moment donné, je voulais arrêter. Et il est venu chez moi, il a passé tout l'après-midi à la maison. Je ne faisais que pleurer. J'étais vraiment dégoûtée. Il m'a persuadé de ne pas arrêter.
C'est marrant que tu me dises ça aujourd'hui.
Il fera les lumières, je l'espère, de mon spectacle à l'Alhambra.
C'est fou ce que tu me dises ça aujourd'hui, parce que c'était l'idole absolue de mon fils Sébastien qui s'est tué le 14 juillet 90, c'est-à-dire 20 ans dans 3 jours. Et qu'on parle de ça, c'est marrant, c'est pas un hasard sûrement.
Il n'y a jamais
et il était éclairagiste et il était fou de Jacques Rouvérolis, de ses lumières, de son talent, de tout ça.
Sa générosité, son cœur.
C'est bien l'amitié. Hein.
Ouais. Moi j'ai la chair de poule encore. Ma
mais bien sûr, mais c'est fait pour
j'ai
ça.
J'ai bien fait de venir.
C'est fait pour ça. Et maintenant je vais te draguer puis on va... Bon, c'est marrant. Allez, un petit extrait de film.
Oui, avec une adolescente qui n'est pas très aimable avec ses grands-parents.
Ça pue ici, faut ouvrir.
Non, attention au courant d'air.
Ça va aller, bébé, faut prendre l'air.
Hey, ferme-lui la fenêtre, il va attraper la mort, tu sais, même pas jusqu'au lac l'après-midi. Il aime mieux faire sa sieste.
Ouais, il a raison, sa charnée. Il veut durer comme les petits lapins avec leur petite pile Duracell.
Chanteuse.
Ma soeur, c'était le cœur à votre âge. Faut les regarder, les coincoins.
C'est une chanteuse.
Faut leur donner du pain.
Vous la reconnaissez, vous ?
Qu'est-ce que tu as encore ?
Me dit Vanessa Paradis.
Exactement, c'est Vanessa Paradis. Et alors, c'est dans quel film ? Film sorti en 1995.
Ça, c'est les copines à Marie-Paul qui sont dans le studio. Hein.
C'est un film signé Jean Becker.
Eh ben, c'est la... Ben oui...
Vous avez chanté par Serge Gainsbourg ?
Elisa.
Elisa, absolument.
Oui. Et d'ailleurs, attends, tes copines qui nous ont soufflé, là, tu pourrais quand même les présenter.
Ce sont mes attachées de presse, chérie. Géraldine Tréhel et Valérie Zipper.
Voilà.
Qui sont extrêmement gentilles,
qui
généreuses
sur
et surtout qui travaillent à merveille. Alors ça, je tiens à le dire.
Voilà, t'as vu un peu ?
Bravo.
Il faut penser à tout le monde. On ne fait rien tout seul.
Non.
Il y a certaines choses qu'on peut faire tout seul. Mais qu'est-ce
non,
qu'on
mais dans ce métier, je veux dire...
Il faut une belle équipe.
Ah oui, et puis moi j'ai besoin de me sentir...
Nous qui sommes,
on sent que c'est vrai.
Dis-moi Marie-Paul, nous qui sommes des vieux de la vieille, là, quand même, ce métier, il a changé quand même. Hein.
Ah oui, très. Moi je suis la vieille école. Hein,
ouais. Il y avait une chaleur entre nous qui était vraiment intéressante.
Et puis on a l'air de vieux cons en disant ça.
On est des vieux cons, je te rassure. Mais
non.
On faisait de la musique pour le plaisir. Moi, je me souviens quand on faisait les numéros 1, par exemple.
Il y en a encore qui font.
Oui, non, mais je veux dire, on s'amusait à faire des chansons spécialement pour une émission qui ne serait jamais chantée en dehors. On allait en studio, on s'appliquait. Je veux dire, on partageait des trucs, on prenait des fous rires, on s'éclatait. Mais même si quelquefois on faisait ça, on n'était pas payé. Moi, je me souviens, j'ai fait une parodie de La Parisienne sur les impôts pour une émission de télévision qui se passait l'après-midi. Je l'ai chantée complètement comme ça. En direct, sans savoir ce que Pierre Zaka, qui avait écrit le texte...
Pierre Zaka, voilà, Pierre Zaka.
Sans savoir ce qu'il avait écrit, c'était une un truc sur le fisc. Après, j'ai eu 5 contrôles fiscaux quand même.
5 contrôles fiscaux derrière.
Et wow. Je veux dire, je savais pas ce que j'allais chanter. C'était en direct. Aujourd'hui, Madame, ça s'appelait cette émission à l'époque.
Aujourd'hui, Madame,
oui. Bien sûr.
Et bien, donc, je veux dire, on était gonflés, mais je veux dire, on s'amusait, on risquait des trucs. Bah,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est que pratiquement tout ce qui est fait en fonction de l'image, en fonction de ce qui va être. Faut vendre du CD, du DVD à tout prix. Moi, je sais que les humoristes qui venaient avant dans les émissions arrivaient les mains dans les poches, comme moi, j'arrive les mains dans les poches. Aujourd'hui, les humoristes qui viennent dans les émissions ont tout préparé. Les répliques, les vannes, les trucs sont préparés. Tout est préparé. Et ça manque un peu de spontanéité. C'est pour ça que nous, on dit beaucoup de conneries et que c'est très bien comme
et
ça.
Et c'est pour ça que dans notre émission, tu n'es au courant de rien pour rester justement spontané.
Voilà, je veux rester vierge. Voilà. Je resterai vierge toute ma vie. Bien que de là que je resterai vierge.
Et à rendre hommage à l'équipe, j'aimerais qu'on rende hommage aussi à notre équipe, Patrick, parce que c'est important. Que ce soit Coralie, que ce soit Gilles Lanoux, Jean-Pierre qui est là-bas de l'autre côté
vous
de la vitre.
Vous-même qui avez passé une heure au téléphone avec
merci
moi pour
beaucoup.
Préparer l'émission.
Mais c'est la moindre des choses. Ouais. Voilà,
on me suis sacrifié, qui suis allé passer une nuit d'amour avec Marie-Paul Bell pour qu'elle puisse venir.
Attends. Je sais si c'était difficile pour lui.
Ben ouais.
On enchaîne avec un jeu ?
Si j'étais obligé de me taper ses copines et tout.
Un jeu qui va vous faire plaisir.
C'était bien.
Souvenez-vous du titre. Titre qui vous correspond bien.
Ah oui. Pa, pa, pa.
Toujours diffusé d'ailleurs. Sur France 2. À l'origine, c'était Jean-Luc Reichmann. Bien sûr, Jean-Luc Reichmann.
Ah, ben c'est mon copain Tex.
Patrice Lafont, Tex, depuis octobre 2000.
Déjà 10 ans. Avec un Z.
C'était Les Amours.
C'est un très bon mec, ce petit Tex.
Et on va se quitter donc avec le titre de Marie-Paul.
Avec ce fameux titre,
une
ça me fait très plaisir. Tu n'avais jamais évoqué ça vraiment avant.
J'ai jamais chanté ça, non. J'en ai parlé, si on me pose la question, j'en ai pas honte.
Tu vas le chanter
à
l'Alhambra.
Et c'est déjà en ligne sur le site.
17 et 18 musique, octobre. Oui.
Et donc, c'est un texte de Dominique Valls et une musique.
Est-ce que tu as un message
Elle m'a montré ce texte et la musique est venue d'un seul trait. Comme
tiens,
ça.
Est-ce que tu as un message aux copines
Message aux copines. Vivez jusqu'au bout ce que vous avez à vivre, voilà, et dans le bonheur et sous le soleil.
Voilà.
Plus rien à ajouter.
Même message aux copains.
Allez, une pause et juste après, ce sera ce titre. Le titre, c'est
Celle qui aime elle.
Celle qui aime elle avec Marie-Paul Bell sur RTL.
RTL. Vos plus belles années avec Marie-Paul Bell.
Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille, juin 1950 à Belle-Île. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville on en parlait tout bas. Les mots de haine, ceux qu'on entend à peine, les ont fait pleurer bien des fois. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Et moi qui sais le prix de leurs amours rebelles, moi qui suis mi-voyou, mi-voyelle. Si j'ai choisi d'aimer un triangle isocèle, je peux vivre au grand jour grâce à elle. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville on les montrait du doigt. Les mots qui glissent, les regards en coulisses, les ont fait douter d'elle quelquefois. Pour toucher le ciel, elles avaient besoin d'elle, besoin d'elle. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux On lit sur la photo où elle sourit tranquille. Juin 1950 à Belle-Île.
C'était Marie-Paul Bell sur RTL.
Voilà, merci mon
une
bébé d'être venu.
Exclusivité pour les auditeurs. Pour
je
les
vous embrasse.
Merci beaucoup.
Tous très fort. Oui, merci de ta chanson.
Belle
on va aller te
tous.
Voir à l'Alhambra le dimanche 17 octobre, le lundi 18 octobre. Commencez à réserver.
Et en tournée ensuite.
La Parisienne et la Longue Dame Brune. Marie-Paul Bell en première partie, les chansons de Barbara en deuxième partie. Et rien que du bonheur.
Qu'est-ce que tu vas faire de beau cet été?
Cet été, alors je vais tourner j'ai tourné le Grenier de Sébastien. Mmh. Et là, j'ai déjà commencé à faire des galas à droite à gauche, des spectacles avec. Et je pense pas en avoir autant d'ailleurs, parce que j'étais parti pour en faire 5-6 pour m'occuper, et puis en fait, je crois qu'il y en aura presque une vingtaine avec l'orchestre de René Coll.
Très bien.
Où je chante, où je balance tout ce que je peux pas
dire
à la télé. Mmh. Et à partir de septembre, il y aura la rentrée où je vais faire mes émissions de télévision, je vais reprendre le plus grand cabaret du monde, mmh. je vais reprendre les années bonheur, où tu reviendras sans doute nous en faire une autre, les années bonheur, et puis je vais partir avec le kangourou en tournée, avec la pièce de théâtre, et on va faire des régions, je crois qu'on commence en septembre à Biarritz, Bordeaux, tout ça, puis après on va dans le nord, en
d'accord.
Belgique, etc.
Très bien.
Donc en termes de vacances...
oui, pas trop. Oui. En fait, tu ne prends jamais de vacances.
Je déteste ça.
Oui,
je déteste les vacances.
Merci Marie-Paul.
Merci
beaucoup Patrick.
Merci.
Et puis bel été encore une fois à toi. Le Grenier de Sébastien, on l'oublie pas, c'est dans deux semaines sur France 2 en début d'après-midi. Toujours omniprésent sur nos petits écrans. Merci encore à Marie-Paul. Merci à toute l'équipe.
Oh, puis j'enregistre en disque.
On va arrêter Patrick.
Ça s'appelle Grazie mille.
Et puis merci beaucoup alors. Bien. Allez, place aux infos. Merci beaucoup sur RTL. Il est 12h30. Merci à tous.